Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'affaire Grégory, l'un des faits les plus marquants de l'histoire judiciaire française. Au soir du 16 octobre 1984, la découverte du corps de ce petit garçon de 4 ans, Grégory Villemain, jeté pieds et poings liés dans les eaux froides de la Vologne, une rivière des Vosges, a marqué les esprits de façon durable. D'abord parce que c'est un infanticide, un crime contre l'innocence, et aussi parce que l'affaire va révéler les manquements de la justice, une guerre entre gendarmerie et police et un déferlement médiatique mémorable. 30 ans plus tard, on compte quelques 3000 articles de presse sur l'affaire, ainsi qu'une cinquantaine d'études universitaires, une quinzaine de livres, récits ou souvenirs des protagonistes et même un téléfilm. Et puis il y a tout dans cette histoire, tous les ingrédients du sordide avec un corbeau qui revendique le meurtre. L'affaire Grégory divise aussi avocats, magistrats, journalistes et le public en deux camps, les pro-Villemain et les pro-Laroche. On a commencé par donner à cette affaire le prénom de l'enfant assassiné, l'affaire Grégory. Puis elle est devenue l'affaire de la Vologne lorsque les projecteurs se sont braqués sur cette vallée vosgienne où vivent les familles impliquées, Villemain, Laroche et Bolle, entre les Panges, Aumont-Zé et Granges, autant de noms de villages inconnus qui dessinent la carte du crime. L'affaire a encore changé de nom lorsque la justice, les médias et l'opinion ont sonné la lie contre la mer. Alors l'histoire est devenue l'affaire Villemain. Le dossier a été rouvert en 1999, puis en 2008 pour tenter de confondre des traces d'ADN sur les scellés. Mais ces analyses, pour l'instant, n'ont pas permis d'identifier de nouveaux suspects. L'affaire Grégory, 30 ans de mystère et d'erreur, pourquoi cette énigme nous hante-t-elle encore? Pourra-t-on un jour mettre un point final à l'affaire Grégory? Retour donc sur l'incroyable longévité d'un fait divers qui continue de nous fasciner. Après le récit, nous recevrons notre confrère de France Inter, Mathieu Aron, présentateur de l'émission Secret d'Info sur cette antenne, chaque vendredi soir à 19h20. Il a réalisé un documentaire sur l'affaire Grégory et il a couvert l'intégralité du procès de Jean-Marie Villemain. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA, attaché de production Léa Dupuy-Henquin, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Thierry Dupin, réalisation Coyen Guyenne et Jérôme Chélius, à la technique aujourd'hui Alain Gadan, Benjamin Lagatinet.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Le décor, cette vallée reculée au fond des Vosges, mi-rurale, mi-ouvrière, et cette rivière, la Vologne, qui serpente de village en village. Des personnages, des caractères, des gueules.
Au café du village, on parle de lyncher l'assassin, si on met la main dessus.
Une famille, ses clans, ses rivalités.
Il n'y a jamais eu de clan chez les Villemain.
Ses jalousies, ses haines.
Tout ça, c'est la rumeur des gens.
Un corbeau vengeur.
Est-ce que vous pouvez imaginer que le corbeau se cache dans votre famille?
Imaginez, non, mais c'est possible.
Des rebondissements dramatiques.
Madame Laroche, pourquoi vous avez fait ça?
Je suis innocent.
Innocent. Ces mots terribles prononcés par le juge Lambert. Christine Villemain, je vous inculpe pour l'assassinat de votre fils, Grégory Villemain, le 16 octobre 1984.
L'irréparable vient d'être commis. Les pressions d'une certaine presse ont été plus fortes que les procès-verbaux de gendarmerie.
Et surtout les circonstances de la mort de l'enfant.
L'autopsie a confirmé la mort par noyade de Grégory. Il a été jeté vivant dans l'eau de la Vologne.
Sont effectivement réunis les ingrédients d'un fait divers hors du commun, l'une des affaires criminelles du siècle.
L'affaire Grégory, c'est le grand fait divers des années 80, à l'instar de l'énigme de Bruet en Artois dans les années 70, ou du dossier Dominici après-guerre. La dimension du mystère, les mensonges, l'opposition entre deux vérités inconciliables, la version Laroche et la version Villemain, il y a incontestablement un ressort tragique. Le déchirement de ces deux familles cousines, c'est le drame en chaîne des Atrides, dans la mythologie grecque, cette famille maudite par les dieux, car sa lignée est fondée sur le meurtre originel du fils. La vengeance privée exercée contre la justice publique, le meurtre de Bernard Laroche, relâché par le juge et tué par le père de Grégory, raison du sang contre raison d'État, c'est le dilemme posé par Sophocle dans Antigone. Et encore, le soupçon de la mère infanticide, c'est Médée. Mais cet arrière-plan mythique n'explique pas tout, bien sûr. L'affaire Grégory fascinerait-elle autant si elle avait été résolue et si elle n'avait pas sombré rapidement dans un fiasco judiciaire? L'erreur judiciaire. Voilà pour notre société moderne la tragédie véritable, qui est aussi la dimension de l'affaire Grégory. Revenons au début de l'histoire. Le 16 octobre 1984, un petit garçon de 4 ans disparaît alors qu'il joue devant la maison de ses parents dans un village de la vallée de la Vologne. Il est environ 17h à l'épange et Christine Wühnemann vient de ramener son enfant de l'école. L'affaire Grégory commence.
Les habitants du village de l'Épange sur Vologne dans les Vosges ont l'impression de vivre un véritable cauchemar. C'est dans ce village en effet qu'avant-hier Grégory Wühnemann, un garçon de 4 ans et demi, a été enlevé à la sortie de la maternelle et jeté dans la rivière après que son assassin lui ait lié les mains dans le dos et lui ait passé une cordelette autour du cou. Dans le village, c'est à la fois l'horreur, la colère et la suspicion.
Une photo à la une de la presse locale. Il fait nuit, mais le flash du photographe permet de voir tous les détails de l'image. Le corps d'un petit garçon retiré des eaux de la Vologne. L'enfant a les poignets attachés sur le ventre, ses chevilles également sont entravées. Il a disparu quelques heures auparavant et sa mère, affolée, a donné l'alerte. Aux gendarmes, Christine Wühnemann parle d'un corbeau qui envoie des lettres de menaces à elle et à sa famille, qui les calomnie depuis des mois, qui téléphone jour et nuit. Le lendemain, les parents reçoivent une nouvelle lettre anonyme postée avant le crime et le revendiquant. « J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. » C'est comme ça que tout a commencé dans la vallée de la Vologne. Dans le village de l'Épange, en effet, c'est à la fois l'horreur, la colère et forcément la suspicion.
Au café du village, on parle de lyncher l'assassin, si on met la main dessus. La directrice de l'école de Grégory, Madame Thurier, se dit désespérée. Le maire, André Claudel, est effondré. Avec les parents de Grégory, les 1000 habitants de l'Épange-sur-Vologne remâchent leur colère et s'interrogent « Quel monstre a pu faire ça ?» Ce matin, les parents de l'enfant ont été longuement entendus par les gendarmes. Un témoignage important pour la suite de l'enquête qui va conduire probablement à l'audition de plus de 60 personnes. Le mobile serait la vengeance, une vengeance familiale, dont la cible serait le père, Jean-Marie, surnommé le chef dans la famille, car il est contremaître dans l'usine où il travaille. Quelques instants avant la découverte de la disparition de Grégory, un homme à la voix rauque a annoncé l'assassinat de Grégory en téléphonant à son oncle. « Je me suis vengé », a dit l'homme, « j'ai pris le fils du chef et je l'ai mis dans la Vologne ». Ce coup de fil est parvenu chez l'oncle de Grégory parce que ses parents se sont fait inscrire sur liste rouge depuis quelques temps, car les Wühnemann reçoivent depuis plusieurs années des menaces anonymes. On parle de 700 coups de téléphone. La raison de ces menaces, peut-être la jalousie, suggère un voisin. À 30 ans, Jean-Marie Wühnemann a bien réussi. Il s'est fait construire un joli pavillon il y a 2 ans. Il possède 2 voitures et à l'usine, il dirige quelques-uns de ses cousins. À la sortie de la gendarmerie ce matin, Jean-Marie Wühnemann a dit « Je crois savoir qui c'est, on verra bien ».
Ce n'est pas un crime de rôdeur, c'est même la seule chose dont on peut être sûr. L'assassin est là, tout près, il a nécessairement un mobile qu'il faut découvrir. Les journalistes arrivent nombreux des grandes villes de la région, mais aussi de Paris. Il en viendra très vite de toute l'Europe et même du Japon. Les gendarmes, eux, commencent leur travail et décident d'organiser une dictée collective pour identifier l'auteur des lettres anonymes, comme dans le film de Clouseau, le corbeau, présent dans toutes les mémoires. C'est ainsi que commence l'enquête et que débute ce qui va devenir une bérésina judiciaire. Qui peut imaginer que cela durera des semaines, des mois, des années? Les premiers concernés sont les gendarmes. Ils se lancent sur toutes les pistes. Ils examinent les traces au bord de la Vologne, là où on pense que le corps a pu être jeté. Pas grand-chose, si ce n'est une vague empreinte de pneus et un talon de chaussure. Les lettres sont envoyées à un expert qui désigne un cousin à cause des lettres laissées par l'impression crayon à billes LB, Laroche-Bernard. Bernard Laroche est déjà un suspect possible, car il n'est pas en bon terme avec les Wühnemann et on le dit jaloux. Autre suspect, dès les premiers jours, Christine, la mère. La mère, pourquoi la mère? On ne sait pas trop. Cela semble si monstrueux, une mère qui tue son fils. Alors on écoute les rumeurs. Et c'est ainsi que commencent les dérapages entre journalistes, juges, gendarmes, policiers. Christine Wühnemann aurait laissé Grégory sans surveillance et il se serait noyé dans sa baignoire. Affolée, la mère l'aurait ensuite jeté dans la rivière. Des analyses lors de l'autopsie sont réalisées mais ne prouvent rien. De plus, les horaires ne coïncident pas. Jamais Christine Wühnemann n'aurait eu le temps. Entre le retour de l'école et le coup de fil du corbeau chez Michel Wühnemann, le frère de Jean-Marie, une demi-heure à peine s'est écoulée. Un scénario impossible, le crime n'a pas pu être improvisé. La douleur est terrible, mais la rumeur court et dans la famille, les haines s'attisent. Écoutons Jean-Marie Wühnemann.
Il n'y a jamais eu de clan chez les Wühnemann. Tout ça, c'est la rumeur des gens. On est une famille unie. Et on peut se renseigner C'est certain qu'on est une famille unie. Quand vous entendez qu'on parle de clan, comment est-ce que vous réagissez à cette idée? C'est là qu'on se rend compte la mentalité des gens, la méchanceté des gens et tout, quoi. Qu'il y en a que, au lieu de parler, il faut bien se taire. Bon, il n'y a pas de secret. C'est tout de l'inventé, c'est tout.
Il aurait été dit, ce secret.
Il aurait été découvert, même. Non seulement dit et découvert. Ça fait 8 jours que ça dure. Ça...
Est-ce que vous avez reçu des appels anonymes?
Des menaces et tout, quoi. Ça n'a jamais été pris au sérieux.
C'était quel genre d'appel?
Des insultes et des menaces, c'est tout.
Vous dites que ça n'a jamais été pris au sérieux. Par qui ça n'a pas été pris au sérieux?
La gendarmerie de Corsia n'a pas pris ça au sérieux.
Si la gendarmerie avait pris ça au sérieux, votre fils serait sans doute vivant aujourd'hui.
Oui.
Ça vous a rendu la vie impossible?
Dans 2 ans, oui. Plus de 2 ans, même. C'est invivable.
Est-ce que vous pouvez imaginer que le corbeau se cache dans votre famille?
Imaginez, non, mais c'est possible.
Vous soupçonnez personne actuellement?
Personne n'est pas le mot. Plusieurs, oui. Maintenant, reste à voir. On attend.
Comment actuellement réagit votre épouse?
Dans un état que je peux même pas déterminer moi-même. Je sais pas.
Et vous-même?
Moi-même, dur, mais je tiendrai. Il faut que je tienne. Vous savez qui c'est.
Et votre famille?
Eux aussi sont du même opinion que moi. Nous demandons justice, c'est tout. Que vengeance soit faite.
Entre en scène le juge d'instruction d'Épinal, Jean-Michel Lambert. Proie des médias, copain des journalistes, jusqu'au tutoiement avec certains, il conduit l'enquête au gré de ses convictions successives, change souvent d'avis, acculé, bousculé, car les rebondissements s'enchaînent. Quelques improbables portraits robots sont diffusés. Un premier suspect désigné, puis un second, piste très vite abandonnée. Pour le capitaine de gendarmerie Sesma, la piste Laroche semble être la bonne. Bernard Laroche est alors conduit par les gendarmes au palais de justice pour être entendu par le juge.
Bernard Laroche sort du palais de justice en bleu de travail, les menottes au poignet. Direction la prison de Nancy, il vient d'être inculpé d'assassinat. Bernard Laroche, les larmes aux yeux, hurle son innocence.
Bernard Laroche, pourquoi vous avez fait ça?
Je n'ai rien fait du tout.
Vous êtes innocent?
Oui. Je suis innocent.
Je suis innocent. Bernard Laroche est le cousin germain de Jean-Marie Villemain. Dans la famille, c'est la consternation. Écoutez, Monique Villemain, c'est la grand-mère de Grégory.
Très étonnée. Nous sommes les grands-parents, oui, de Grégory. Nous sommes très étonnés quand Bernard était considéré comme un enfant de la maison. Il nous a rendu visite 2 fois après le décès du petit Grégory. Mais un acte aussi cruel n'est pas pardonnable. La peine de mort pour lui sera comme pour les autres quand le petit gamin la jouissait d'un bonheur extrême. Au fait, c'est grand. Ils étaient très, très heureux.
Mais comment est-ce que vous pouvez expliquer que cet homme-là se soit acharné sur vous et votre famille?
Je ne sais pas. Je ne connais pas le mobile. Du tout. Car nous avons toujours eu de bonnes relations intimes.
C'est un ami, il était reçu chez vous?
Oui, très bien. Nous avons quand même fait une choucroute de famille à février avec les enfants. Il était parmi nous. Un Michu à juillet avec mon frère, il était parmi nous. Nous n'avons jamais laissé dans quoi que ce soit. Nous considérons son père et sa famille comme des êtres de toutes sortes. Il a toujours un jeu à tous les mariages.
À la sortie de la gendarmerie, et avant d'être inculpé par le juge d'instruction d'Épinal, vous l'avez entendu, Bernard Laroche a pour la première fois perdu son sang-froid. Il s'est mis à crier « Je suis innocent, je suis innocent ». C'est exactement ce qu'il avait dit à Jacques Expert vendredi dernier, après une journée de garde à vue, lorsque les gendarmes, cette fois-là, l'avaient relâché.
Je n'ai rien à voir là-dedans. Je n'ai jamais écrit de lettre, je n'ai jamais donné de coup de téléphone. C'est pas moi qui ai tué le gosse. Je ne sais pas comment j'aurais fait ça, d'ailleurs.
La famille Villemain, c'était des amis à vous?
C'était des amis, c'était des parents et des amis.
Ça a été dur, ces 24 heures d'audition?
Pas trop, enfin, de toute façon, je savais que j'avais rien à me reprocher, je suis resté calme.
Vous avez un alibi?
Oui, j'avais un alibi, oui. J'étais chez ma tante avec une de mes belles-sœurs.
Ça, c'était vendredi dernier. Depuis, l'alibi de Bernard Laroche s'est apparemment effondré. Il est maintenant inculpé d'assassinat et va passer sa première nuit en prison à Nancy.
Effectivement, Bernard Laroche passe sa première nuit le 5 novembre 1984. Jean-Marie Villemain n'est pas surpris de l'arrestation de son cousin.
Moi et ma femme, on n'est pas surpris parce qu'on a l'infirme conviction que c'est Laroche. Je ne veux pas dire qu'on est soulagé parce qu'on s'y entendait, hein, mais si ça avait été le contraire, alors là, oui, on n'aurait pas compris. Et puis si ça pouvait être qu'un type comme ça, une personne qui soit au courant aussi bien que ça, il y avait que Laroche. Hein. On ne veut pas rester là, nous on veut savoir pourquoi il nous a fait ça. Pourquoi ou pour qui. Et ça, on veut le savoir.
Il aurait agi par jalousie, Laroche. On dit même qu'il est attiré par Christine Villemain et qu'il souffrirait de manière maladive de la réussite professionnelle de son cousin. Des expertises en écriture le désignent. Elles seront plus tard annulées pour vice de forme. Mais c'est surtout le témoignage de Muriel Boll, la jeune belle-sœur de Bernard Laroche, qui est important. Elle est âgée de 15 ans. Elle va convaincre le juge Lambert. Muriel Boll affirme que ce jour-là, Bernard Laroche est venu la chercher en voiture au collège et qu'ils sont allés ensuite à l'Épange. Il a amené le gosse vers la rivière, ajoute-t-elle. Cette fois, tout le monde pense que l'assassin est confondu. Mais non, coup de théâtre. Muriel Boll revient sur ses déclarations. Et devant un parterre de journalistes, dans la cour de la ferme familiale, avec sa mère en arrière-plan derrière une fenêtre qui semble la surveiller, la jeune fille accuse les gendarmes de lui avoir extorqué son témoignage et affirme que son beau-frère, Bernard Laroche, n'est pas venu la chercher au collège. Bref, que tout est faux.
À 17h15, j'étais dans le corps qui me descendait au Mosée chez ma sœur Marion. J'ai vu mon beau-frère assis à la cuisine avec son fils sur les genoux, qui regardait la télé.
Mais d'après les gendarmes, ce que vous nous dites est faux. Vous étiez avec Bernard Laroche à Docelles.
Je n'étais pas avec Bernard Laroche à Docelles. J'ai jamais été avec lui là-bas.
Vous revenez sur votre déclaration faite aux gendarmes.
Ouais. Parce que c'est eux qui m'ont forcé à dire ça. Ils m'ont forcé à dire que j'étais avec mon beau-frère dans la voiture. Parce que mon beau-frère, ils m'ont dit que mon beau-frère avait dit pareil. J'avais confiance aux gendarmes. Et c'était un piège et j'ai tombé dedans.
Pourquoi êtes-vous tombé dans ce piège?
J'avais peur des gendarmes. Ils ont profité que j'étais tout seul. Puis j'ai 15 ans, je suis pas majeure. Ils m'ont dit pour la maison de correction que Bernard avait dit ça. Et puis si je disais pas ça, ils me mettraient dans une maison de correction.
Vous n'êtes pas allé chercher Grégory?
Je n'ai jamais été chercher Grégory. Je connais pas le petit Grégory Villemain. J'ai jamais été à l'Éponge ni à Docelles.
On ne vous a pas vu dans l'autocar scolaire. Et il y a des témoignages qui disent qu'on vous a vu à la sortie de l'école avec Bernard Laroche.
J'étais dans le bus le jour-là. Ça fait presque 3 semaines déjà. Hein. J'ai jamais monté avec mon beau-frère n'est jamais venu me chercher à la sortie de l'école.
Muriel, ce que vous avez dit, vous ne le dites pas sous la pression de votre famille?
Non, je dis pas sous la pression de ma famille. Voilà. Il est innocent.
Alors, qui croire, que comprendre? Laroche, écroué le 2 novembre, sort de prison le 4 février 1985, mais reste inculpé d'assassinat. Il en est persuadé, son arrestation est le début d'une erreur judiciaire.
Je me demandais si on allait trouver vraiment le vrai coupable. Je pensais que ce serait moins long que ça. Je pensais que on allait trouver le coupable et puis qu'on allait me libérer.
Vous n'avez pas peur de retourner dans votre pays, à Aumont-Zé?
Non.
Pourquoi?
Je pense que les gens ont compris que cette histoire avait été inventée, que je n'y suis pour rien.
Qu'est-ce que vous allez faire maintenant?
Je vais rentrer chez moi puis essayer de retravailler le plus tôt possible.
Reprendre une vie normale?
Essayer.
C'est possible?
J'espère.
Et dans votre tête, c'est possible?
De toute façon, ça ne sera jamais comme avant.
Bernard Laroche est bientôt remplacé dans le rôle de suspect numéro 1 par la mère de Grégory. Les clans se mettent en place, pour ou contre, journalistes, police, justice, et les théories échafaudées tout aussi imprécises ont vocation à remplir le vide dont la justice et la presse, comme la nature, ont horreur. Alors il faut un coupable, une en l'occurrence. Christine Villemain fera l'affaire.
Zolove, les grosses, les pires Zolove, l'ove, le courant de l'ove, les fours de courant, au-dessus, les pires, l'ove entre les grosses Zolove, l'ove, le courant, les cruzous, Zolove, les grosses Zolove. L'ove, le courant, les cruzous, Zolove, les grosses, lents, profonds, toi, Zolove, l'ove, les grosses, lents, là, les fauches, l'eau, fauche, Zolove, les pires, sous les profonds, les cruzous. Les grosses, les grosses.
L'enquête a changé de direction. Ce n'est plus la gendarmerie, le capitaine Sesma, mais le SRPJ de Nancy qui reprend l'affaire, avec à sa tête le commissaire Corazzi. Si pour les gendarmes, Laroche était le coupable idéal, pour la police, tout mène à la culpabilité de Christine Villemain. La conviction des enquêteurs s'appuie également sur des expertises en écriture et sur 4 nouveaux témoignages de jeunes femmes qui affirment avoir vu Christine Villemain déposer du courrier au bureau de poste de l'Épange entre 17h et 17h30, c'est-à-dire au moment où le corbeau est censé avoir posté sa lettre anonyme.
En début d'après-midi, les policiers sont venus chercher Christine Villemain. La mère de Grégory les a suivis sans protester. Elle sait pourtant alors ce qui l'attend. Ces mots terribles prononcés par le juge Lambert. Christine Villemain, je vous inculpe pour l'assassinat de votre fils, Grégory Villemain, le 16 octobre 1984.
Christine Villemain se défend, dénonce la calomnie. Jean-Marie, son époux, fait front, mais il ne cache pas qu'il tuera celui qui a pris la vie de son fils. Ces procès-verbaux d'audition qu'on retrouve dans les journaux, ces procédures annulées, ces instructions médiatisées à outrance, ces brusques changements de cap, l'enquête ponctuée par des accusations contre sa femme ont sûrement contribué à armer le bras de Jean-Marie Villemain. Le 29 mars 1985, il tue celui dont il est persuadé qu'il est l'assassin de son fils, c'est-à-dire Bernard Laroche. Sa femme, témoin de l'assassinat de son mari par Jean-Marie Villemain, raconte dans quelles conditions s'est déroulé le fatal face à face.
J'étais chercher Bernard à une heure comme d'habitude. Quand je suis arrivé devant la maison, bon, j'ai pris la clé dans ma poche d'un oracle pour ouvrir la porte. Bernard s'est engagé le premier. Moi, je passais juste. Puis, on a entendu courir derrière. On s'est retourné, c'était Jean-Marie Villemain avec son fusil.
Qu'est-ce qu'il vous a dit?
Il dit, c'est Bernard qui a parlé en premier. J'ai dit, Jean-Marie, fais pas le con. Il dit, je comprends ta douleur. Il dit, mais c'est pas moi, j'ai pas tué ton gosse, je te jure. Alors, le Villemain, il dit, mais il paraît que tu veux pas t'expliquer avec moi. Bernard, il dit, si, j'ai jamais dit ça. Alors après, il lui dit, je voudrais que tu me dises quelque chose sur Michel Villemain. Alors Bernard, il dit, pose ton fusil sur ma voiture et monte. Alors au moment-là, il avait baissé un peu le canon. Après, viens, qu'il dit, Bernard, je t'explique, si tu veux des explications. Alors, il dit, pourquoi que Muriel a dit ça? Ben, je lui dis, viens, je dirai t'expliquer. Il dit, c'est ta faute qu'ils sont tous sur Christine, maintenant. Il l'a tué.
Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça, à votre avis, 2 mois après la libération de votre mari?
Pourquoi? Parce que j'ai un dame qui était saisie de l'enquête. Capitaine Sesma était formel. Il a été voir plusieurs fois Jean-Marie Villemain. Il lui a dit, je suis formel, c'est sûr. C'est Laroche, c'est Laroche, c'est Laroche. C'est Sesma qui l'a poussé. Et sa femme.
Vous accusez le capitaine Sesma et Christine Villemain.
Oui. Oui.
Autre témoignage, celui de la femme de Jean-Marie Villemain, Christine. Elle a vu son mari hier matin avant qu'il n'aille accomplir son geste meurtrier. Au téléphone, le récit de Christine Villemain.
Il est venu le matin, il ne m'en a pas parlé du tout. Puis quand il est venu à 2h, il m'a dit qu'il avait tué Laroche, c'est tout. Mais on n'a pas eu de conversation sur Laroche du tout le matin. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Il est parti, il était 10h30, il m'a dit, bon, bah, plus tard, j'arrive à 2h. Il m'a dit, t'as qu'à dormir après-midi, c'est tout. Il est parti, bon, bah, plutôt que d'habitude, mais autrement, il était normal pour moi. Jusque-là, vraiment, on n'avait plus confiance à la justice. Parce que les expertises, j'écris aucune des lettres. Les expertises qui me ressortent, alors là, je crois que c'est ça aussi qui l'a foutu en l'air. Je crois que c'est pas réfléchi, c'est un coup de déprime. Hein. Je sais pas ce qu'il lui a pris pour aller le faire hier, pas du tout. Hein. c'est une folie. Oui, parce que bon, bah, il aurait dû attendre. De toute façon, on avait l'intention de le faire, mais on voulait attendre que la PJ fasse son boulot. Et s'il n'aurait rien à décamper, on le faisait de toute façon. Jean-Marie, des fois, je lui disais, on n'a qu'à partir, on va à la maison à bas prix, puis on s'en va. Il me dit pas question, il faut que je mange le petit. Je l'ai juré quand je l'ai vu le soir, quand il l'a retrouvé noyé. Il a dit, je l'ai juré, il faut que je le fasse. De toute façon, d'une manière comme d'une autre, si ça ne décampait pas, il l'aurait descendu.
Ce second meurtre est un coup de tonnerre. Chacun s'interroge sur ce nouveau drame. La Roche coupable, La Roche innocent, La Roche victime. Mais pour les policiers en charge de l'enquête, maintenant le coupable c'est la mère. Mais il faut pour cela faire coïncider leurs convictions avec les faits, même si ça ne colle pas, comme le rapportent certains journalistes. Le mobile, on l'ignore. Christine Villemain voudrait se venger d'un mari qu'elle n'aime pas. Elle serait aussi le corbeau. Une hypothèse gratuite, mais qui, à force d'être répétée, prend de la valeur, principe pervers. Christine Villemain est donc inculpée d'assassinat et écrouée enceinte le 5 juillet 1985. Oh, à vrai dire, elle s'y attendait.
Bon, au début, ça m'a choquée, mais de toute façon, maintenant, ça me laisse froid parce que j'ai rien à me reprocher. Et de toute façon, les expertises, ce n'est pas une science. Une science exacte. Il y a 3 mois, on désignait La Roche, après on a désigné Jaquel. Alors qu'on me désigne moi ou une autre personne, il faudra prouver encore. Et puis, pourquoi est-ce que ça serait vraiment les experts-là qui diraient la vérité et puis pas les autres d'avant?
Et comment vivez-vous les soupçons qui pèsent sur vous?
Non, c'est vraiment... Parlons, c'est pas français, mais c'est vraiment dégueulasse. Parce que de toute façon, on était très heureux tous les trois. Je vois pas ce qu'ils nous auraient... rapporter que je fasse un truc comme ça. J'adorais mon fils et mon ménage, on était très bien ensemble. Et c'est pas en me mettant en garde à vous ou en me serrant qu'ils découvriront quelque chose, parce que je n'ai rien à voir là-dedans. On m'a pris mon fils et puis c'est tout. Hein. Je peux pas en dire plus, je peux même pas désigner qui est l'assassin. Hein.
Christine Villemain sera relâchée une dizaine de jours après et obtiendra un non-lieu en 1993.
France Inter. Affaire sensible, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'affaire Grégory, nous en parlerons dans quelques minutes avec notre invité, notre confrère de France Inter, Mathieu Aron, qui a couvert le procès de Jean-Marie Villemain. Ces convictions ou interprétations qui, au fur et à mesure de l'affaire, provoquent retournements et inculpations trop rapides, sont fabriquées et partagées par tous les acteurs de cette affaire, dont les journalistes. Dans une enquête publiée au terme du procès de Jean-Marie Villemain, le bûcher des innocents, Laurence Lacour, envoyée spéciale d'Europe 1 dès le début de l'affaire à L'Épanche, raconte comment certains journalistes font pression sur les enquêteurs et organisent des mises en scène hallucinantes, comme le premier Noël des Villemain sans Grégory, puis celle du réveillon sans Grégory, avec des paquets cadeaux placés sur la tombe de l'enfant. Dérapage, oui, bien sûr, mais les journalistes ne sont pas les seuls. La responsabilité incombe à toutes les parties, la justice, la gendarmerie, la police et la presse, naturellement. Lors du procès, l'avocat général évoque des journaux frénétiques et avides, comme pour démontrer que l'enquête elle-même a été menée à l'envers, suivant les rumeurs, ballottées comme un bateau ivre par des vents contraires, chacun décidant selon ses propres convictions. Un an après le crime, l'enquête est au point mort. Pour Maître Garot, l'avocat des époux Villemain, il est peu probable qu'un jour la vérité soit faite.
L'irréparable vient d'être commis. Les pressions d'une certaine presse ont été plus fortes que les procès-verbaux de gendarmerie et les accusations de Muriel. Jean-Marie et Christine Villemain, ce jeune couple irréprochable, travailleurs, unis, heureux jusqu'au 16 octobre 1984, n'a pas réussi à convaincre. Au moment où cette mère, portant en son sein le frère ou la sœur de Grégory, est jetée en prison, remonte à ma mémoire les certitudes de l'avocat général de la Cour d'appel de Nancy, qui le 7 décembre 1984 déclarait: La Roche est le criminel vraisemblable, j'irai au-delà, il est le criminel véritable, tout concorde, il faudrait très peu de choses pour entraîner la conviction d'un jury. Aujourd'hui, la mère est inculpée et écrouée, contre les réquisitions du parquet. Il n'y a aucune preuve matérielle contre elle. La conviction d'un homme peut-elle varier en fonction de ses interlocuteurs avec les gendarmes Bernard Laroche, avec le SRPJ Lamère? Les hauts magistrats de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy vont être saisis et statueront dans les prochains jours.
Novembre 1993, 9 années d'instruction sont passées, voici le procès. Devant la cour d'assises de Dijon, nous assistons à un procès d'expiation et de retrouvailles qui va durer près d'un mois. Une cérémonie judiciaire, pourrait-on dire, plutôt qu'un procès, parce qu'on ne sait pas trop qui on juge. Si c'est Jean-Marie Villemain, le meurtrier, ou Bernard Laroche, son cousin et sa victime, ou Christine Villemain, innocentée par un non-lieu, mais toujours suspecte aux yeux de quelques irréductibles, tant qu'on ne saura pas qui a tué le petit Grégory le 16 octobre 1984. Et d'ailleurs, le saura-t-on un jour? La justice, la police et les médias sont également convoqués à la barre pour expliquer, aussi s'expliquer sur les dérives de l'enquête. Commençons par Jean-Marie Villemain, puisque c'est son procès. Le président du tribunal retrace la vie du père de Grégory, son mariage avec Christine, son travail. Il est contremaître et ce statut de chef aurait rendu jaloux plusieurs personnes dans sa famille. Et puis, son caractère entier agace. Il leur a reproché, lui et à sa femme, d'être hautain, distant, des gens qui se la jouent en quelque sorte. Le couple se brouille avec les frères et les cousins, la famille se déchire, les mensonges, rivalités et haine influencent les réactions. Et puis il y a le corbeau qui s'acharne par lettres, par téléphone, qui menace, qui harcèle, qui sait tout sur les secrets des familles Villemain, Laroche et Boll, sur ces secrets qui hantent les rives humides de la Vologne. C'est un corbeau très pro. Dès que son fils est retrouvé mort dans la rivière, Jean-Marie soupçonne ses frères et même sa mère. Mais pas une seconde, un étranger ou un rôdeur, non. Le corbeau est tout prêt. Personne n'arrive à le démasquer. C'est le diable. Tous les experts assureront qu'il connaît parfaitement la personnalité de Jean-Marie Villemain. Un journaliste présent lors du procès témoigne et dit... Quand Jean-Marie Villemain se retourne devant le jury et explique que le 16 octobre 1984... la dernière image qu'il a eue de son fils et sa silhouette dans le rétroviseur qui lui fait un signe d'adieu, il tombe sur la salle un silence pesant. Et Jean-Marie Villemain ajoute « Christine et moi, on s'attendait à être arrêtés, séparés. On avait préparé nos sacs et on y avait glissé des photos de Grégory. » Jean-Marie dit aussi qu'avant de tuer Bernard Laroche, il savait que la police avait déjà condamné Christine, sa femme, que tout le monde était persuadé que c'était Christine la coupable. La presse répétait « c'est la mère », dit Jean-Marie. La nuit, on s'accrochait l'un l'autre. Plus on pensait à Grégory, plus on sombrait, précise-t-il. Une vie d'assiégé, en sursis, le chagrin à perpétuité pour les époux Villemain. Le président Ruissin lance les débats sur d'autres pistes avec l'idée d'éclaircir toute l'affaire. On cherche toujours le corbeau, on écoute les bandes enregistrées où une voix crachouille des ragots de village. On interroge à nouveau les témoins, les cousins, la femme de Bernard Laroche, le frère et la mère de Jean-Marie et bien sûr Muriel Boll, dont le premier témoignage avait conduit à l'arrestation de Bernard Laroche avant qu'elle ne se rétracte. Rien de nouveau après ces auditions, 9 ans après, tous se tiennent à leurs déclarations précédentes. Alors on cherche d'autres coupables parmi ceux qui savaient que Bernard Laroche allait être assassiné et qui n'ont rien dit, qui n'ont rien fait. Quelques minutes avant que les jurés ne partent délibérer, Jean-Marie Villemain se lève et demande au président « Monsieur le Président, ne me séparez pas de Christine, je vous en supplie, assez de souffrance. » Verdict, 5 ans d'emprisonnement, dont un avec sursis pour Jean-Marie Villemain, meurtrier de son cousin Bernard Laroche. Après 7 semaines de procès, 9 ans d'instruction, les jurés ont rendu un verdict qui semble satisfaire partie civile et défense.
Ce matin, il avait supplié les jurés de ne pas le séparer de sa famille. À l'annonce du verdict, Jean-Marie Villemain a blêmi, mais n'a rien dit. Une heure après, il retournait à la maison d'arrêt de Dijon. Face à Jean-Marie Villemain, Marie-Ange Laroche a retenu son émotion. Pour elle, le verdict est un soulagement.
En mettant Jean-Marie Villemain en prison, ça démontre l'innocence de Bernard. Et Jean-Marie Villemain peut retourner en prison, c'est pas ce qui rendra le père à mes enfants. La justice est due.
Est-ce que vous pensez, Marie-Ange, que ce verdict va ramener la paix entre les familles Villemain et Boll?
Ben, j'espère.
Vous le voudriez?
Oui.
Monique, la mère de Jean-Marie Villemain, est restée longtemps dans la salle à pleurer, effondrée sur l'épaule de son mari. Christine Villemain, elle, comme sous le choc, a été la dernière à quitter le palais de justice de Dijon, séparée, pour quelques temps encore, de son mari.
Restent les questions et la principale d'entre elles, qui a tué Grégory Villemain? Comment ceux qui savent et qui ont menti vont-ils vivre avec leurs mensonges? L'affaire Grégory rebondit en juin 2000 avec une série d'expertises de la dernière chance autorisée par la cour d'appel de Dijon. Les scientifiques cherchent des traces d'ADN, en particulier sur une lettre du corbeau. Pour Maître Lombard, avocat des grands-parents de Grégory, cela ne peut être que positif.
Vous savez, il ne faut pas parler de succès dans une affaire aussi tragique. Moi, je pense que la cour d'appel de Dijon rendit un arrêt novateur qui réconcilie la justice et la science. C'est une chose très importante. Dans cette affaire, il faut vraiment pas trouver la mariée trop belle. C'est déjà extraordinaire qu'une instance aussi importante que la cour d'appel de Dijon ait pris ses responsabilités. Moi, je trouve ça très bien. On a beaucoup critiqué la justice et j'ai pas été le dernier à le faire. Mais là, la justice donne un exemple de modernité. Ça fait 17 ans qu'on attend. Oui. Hein. Alors, on peut encore attendre quelques mois et laisser la justice marcher à son pas.
Mais quelques mois après, des experts estiment les traces inexploitables. Alors, à tour de rôle, des acteurs de l'affaire interviennent, soit parce qu'ils écrivent des livres, comme le juge Lambert ou le colonel de gendarmerie Sesma, soit pour demander, comme Jean-Marie Villemain, une réhabilitation qui sera rejetée. En octobre 2009, le procureur général de Dijon annonce la découverte de deux ADN identifiables, oui, un masculin et un féminin, sur le timbre et sur une lettre du corbeau. Ces analyses ne mènent, elles aussi, à rien. Puis en septembre 2012, à la demande des parents de Grégory, la cour d'appel de Dijon autorise deux nouvelles recherches d'ADN sur les vêtements et les cordelettes qui ont servi à attacher Grégory, en vain, une fois de plus. Car le 24 avril 2014, le procureur général de Dijon, Jean-Marie Bonnet, conclut qu'il n'y a pas d'identification possible compte tenu de la difficulté d'exploitation des résultats. Rideau. Le mystère entourant la mort du petit Grégory reste entier pour combien de temps encore ? Affaire sensible aujourd'hui, l'affaire Grégory Mathieu Aron, journaliste à France Inter, ancien directeur de la rédaction de cette même maison, est avec nous. Bonjour Mathieu.
Bonjour Fabrice.
Donc vous avez couvert le procès de Jean-Marie Villemain. Vous êtes intéressé aussi aux faux rebondissements de l'affaire. Je parle des traces ADN qui ont donné de faux espoirs, en tout cas pour l'instant. Pour vous aussi, c'est le fait divers des années 80, peut-être au-delà en France.
Oh oui, c'est le fait divers de ces 50 dernières années. C'est absolument incontestable. Hein. Toutes les personnes qui se sont approchées de ce fait divers, que ce soit les enquêteurs, les juges, les journalistes, ont tous été fascinés, absolument fascinés par cette affaire. Et souvent, ils s'y sont perdus, d'ailleurs.
Bien sûr. Alors vous êtes arrivé 4 ans après l'assassinat du petit Grégory, parce que vous êtes arrivé en 87, donc 3 ans après, hein, c'est ça?
87-88, oui.
Bon, quelle était l'atmosphère à l'Épanche? Était-elle la même que 4 ans auparavant, de ce que on vous en a dit, de ce que vous avez ressenti, vous?
Moi, je me souviens très bien que quand je suis retourné là-bas, je pensais que les choses s'étaient un peu tassées, comme l'on dit. Et puis moi-même, j'étais très jeune journaliste, je n'avais pas tout le passé, si vous voulez, dans la tête. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait cette atmosphère toujours aussi pesante. Je me souviens très bien, quand je suis arrivé là-bas, la première chose que j'ai été faire, parce que c'était assez simple, j'ai été sonner à la porte de la grand-mère Villemain, Monique Villemain, qui m'a ouverte. Je suis rentré, on s'est installé, on a pris le café. Et pendant 3 heures, elle m'a re-raconté l'histoire. Et j'avais l'impression, avec probablement la même émotion que plusieurs années auparavant. Et ensuite, tous les gens que j'ai pu rencontrer dans les années 88-89, parce que l'instruction se poursuivait encore, c'était la même chose. Je sais que j'avais été voir, entre autres, Muriel Boll, dont on a entendu le témoignage, cette jeune fille qui avait 14-15 ans en 84, une vingtaine d'années en 89, qui m'avait reçu dans son studio à Épinal. Et là aussi, la même chose, la même tension, les mêmes interrogations, ce mystère qui était incroyable et qui demeure aujourd'hui.
Et est-ce que ce qui les a le plus traumatisés, c'est le meurtre de l'enfant, dans un premier temps bien sûr, mais ou cette affaire de corbeau? Parce que ça, c'est lourd. C'est terrible, surtout dans des petites villes comme ça, dans des bourgades.
Je crois que cette affaire a une dimension extraordinaire pour plusieurs raisons. D'abord, il y a quand même le meurtre de l'enfant. Les avocats pénalistes ont l'habitude de dire que le meurtre de l'enfant, c'est le crime des crimes. C'est le mal absolu. On a l'impression, confronté à un meurtre d'enfant, de toucher pratiquement de doigt le diable. On est confronté au mal. Et dans le même temps, si on se dit que si on arrive à résoudre ce crime, alors quelque part on va être dans la rédemption. C'est le bien qui va à nouveau gagner contre le mal.
La vérité est monstrueuse.
Même si c'est monstrueux, il y a cette dimension quasi religieuse, si vous voulez. Et puis il y a autre chose qui explique pourquoi cette affaire, à mon avis, a pris cette dimension. Effectivement, vous l'avez dit, c'est une histoire de famille avec ce corbeau, ces centaines, ces milliers même d'appels téléphoniques. Il y a eu très peu de lettres, 4 ou 5 lettres, mais il y a eu en revanche, dans les années précédentes, des milliers d'appels téléphoniques, et il faut le savoir, il faut le dire, à peu près tous les membres du clan Villemain se sont appelés entre eux. Hein. 70 personnages dans cette famille. Pour les journalistes qui sont arrivés, vous pouvez imaginer ce que ça peut vouloir dire en termes romanesques. Si j'ose dire, il ne faut pas que ce soit mal pris, c'était comme un jeu des 7 familles réelles. Terrible, terrifiant, mais avec une dramaturgie incroyable. Et puis, il y a encore une chose, c'est l'endroit où ça s'est passé. Les Vosges, pour beaucoup de journalistes qui arrivent de Paris, il y a un choc, il y a un décalage culturel. Il y a une façon aussi de parler de ses habitants avec beaucoup de légèreté. Voilà, d'une manière qui n'est pas très correcte. Mais en même temps, pour les journalistes qui arrivent, ils ont l'impression quelque part, parce que c'est les années 80, il n'y avait pas Internet, c'était pas la même chose. Donc quand on se déplaçait comme ça de 500 km de Paris, c'était autre chose. Ils ont l'impression de repartir dans le passé. Ils se retrouvent comme s'ils étaient 100 ans en arrière. Donc tout ça réuni a fait des choses absolument incroyables. Et puis, mais ça on va peut-être encore l'aborder, il y a les rapports assez troubles entre les journalistes, le juge.
Le juge, police, justice, rivalité, il y a Salmi Gondi, terrible, hein, qui n'aide pas l'enquête, forcément vous...
Alors moi j'ai un souvenir, donc on est en 1989, l'instruction a reprise, c'est 5 ans après le meurtre. Hein. J'avais obtenu une information comme quoi il y avait à nouveau, il y avoir un rebondissement dans cette affaire, enfin l'interpellation du vrai meurtrier à l'Épange. Donc je pars avec ma voiture là-bas, j'arrive, je me dis les interpellations c'est à 6h du matin, donc il faut être là beaucoup plus tôt, donc j'arrive à 2h du matin, je gare ma voiture de reportage sur la petite place de l'église, et je me dis, bah voilà, je suis le seul, c'est super, je vais avoir un scoop. Et puis je m'endors, parce que j'attends 6h du matin. Et puis, au petit matin, je me réveille. Et là, à côté de ma voiture, il y avait 15 autres voitures qui s'étaient garées dans la nuit. 15 autres voitures de journalistes. Et on était 20, 30, 35 confrères à attendre, à nouveau, 5 ans après le drame, sur cette place de cette petite église, que les gendarmes arrivent à 6h du matin pour aller procéder à ces interpellations. Il n'y a jamais eu le moindre gendarme qui est arrivé, l'information était totalement fausse. Pendant 24 à 48 heures, j'ai tourné avec mes confrères dans ce petit village. Vous pouvez imaginer ce que ça fait,
oui,
20 voitures de journalistes. Je sais que des confrères sont restés 7 jours sur place. Moi, je suis parti au bout de 24 heures, mais eux sont restés 7 jours. Tout ça pour vous dire que la presse, effectivement, était devenue un peu folle dans cette histoire. Le juge, c'est pas la peine d'en rajouter, on sait qu'il était jeune, qu'il était inexpérimenté, qu'il a été confronté à un dossier qui le dépassait, mais totalement.
Oui, on a dit d'ailleurs, il était acculé, bousculé aussi par les événements.
On est sur un tout petit territoire où tout le monde rencontre tout le monde. Quand le magistrat va déjeuner, il va déjeuner dans le même restaurant que les journalistes, que le même restaurant que les enquêteurs, donc tout le monde parle et n'arrête pas de parler et de se rencontrer. Bref, il y a tout un tas de phénomènes assez curieux. Et puis, il faut savoir aussi que dans ces histoires criminelles qui dysfonctionnent, que ce soit l'affaire Grégory, que ce soit l'affaire Doutreau, que ce soit aussi l'affaire Baudis, on s'en souvient, à Toulouse, qui avait été accusé des pires horreurs, il y a un peu toujours le même phénomène. Il faut qu'il y ait réuni un juge, pas forcément le meilleur, pour ne pas dire autre chose, des enquêteurs qui dysfonctionnent, et des journalistes qui aussi dysfonctionnent. Si vous avez réuni, pendant le même temps, sur le même territoire, trois types de dysfonctionnement comme ça, et bien vous aboutissez à ces scandales.
Et donc aux ingrédients de cette affaire, Grégory par exemple. Alors, il y a eu le procès, tiens, vous étiez justement au procès de Jean-Marie Villemain, dont on a fait dans le récit un compte-rendu assez sommaire. Quels sont vos souvenirs du procès, vos souvenirs les plus forts? Qu'est-ce qu'il vous a appris, ce procès-là? Quelle étape il a représenté dans le cheminement de l'affaire?
Alors, vous l'avez dit, le président de la Cour d'assises, comme d'ailleurs l'avocat général qui représente l'accusation, voulait absolument refaire toute l'histoire. Ils avaient l'espoir un peu fou de trouver le coupable. Ils avaient cet espoir. Tous les témoins ont donc été réentendus. Moi, je me souviens d'une journée en particulier. Ce jour-là, il y avait celle qu'on a appelée dans cette affaire les jeunes femmes de la Poste, qui apportaient un témoignage important parce qu'elles racontaient avoir vu Christine Villemain poster un courrier qui, pour l'instruction, pouvait être le courrier de revendication. Bon, alors après, elle a été totalement innocentée, il faut le dire et le redire, Christine Villemain, mais il y avait eu ce doute. Et quand ces jeunes femmes sont de nouveau interrogées à Dijon dans ce procès, elles refont le même témoignage. Et à ce moment-là, il y a ce curieux moment où Christine Villemain se retrouve de nouveau accusée. Il y a une tension incroyable dans la salle de la cour d'assises. Tous les membres du clan se mettent à commenter à haute voix ce qui se passe. Le président se dit qu'il est peut-être en train de se passer quelque chose. Alors il fait revenir tout le monde à la barre et il réinterroge tous les membres de la famille rapidement. Ça aboutit à un moment totalement dramatique et le président de la cour d'assises se dit « bon, voilà, j'ai compris, je n'y arriverai pas », donc il préfère lever les débats. Mais à ce moment-là, à la barre, il y avait la grand-mère Villemain, Monique Villemain. Et à cet instant-là, elle tombe à genoux. Et elle joint ses deux mains comme si elle était en prière. Elle hurle qu'elle veut connaître la vérité. L'audience s'arrête. Et on était à un moment de la journée où c'était la lumière qui commençait à baisser, mais il restait juste un jet de lumière. Un jet de lumière qui se projette sur cette femme dans cette cour d'assises. Je vous parlais tout à l'heure d'une dimension religieuse. Moi, j'avais l'impression d'être dans une église à ce moment-là.
Il y a un symbole par l'image qui est fort.
Donc, ça a été un procès très, très fort. Il a été très couvert par les médias. Il y a des journalistes célèbres qui sont venus, des photographes. Il y a Helmut Newton qui était venu photographier ce procès. Je me souviens de photos absolument magnifiques, d'ailleurs, qui avaient été faites dans Paris Match, où on voyait cette affaire avec les membres. C'était très respectueux comme photo, mais il avait amené de grands corbeaux pour illustrer ces clichés. Enfin, bref, c'est une histoire, comme vous le disiez, exceptionnelle.
Exceptionnelle. Alors, donc, troisième tempo de l'histoire, le faux espoir, l'ADN. On s'est dit, voilà, les techniques modernes vont peut-être enfin éclairer une affaire qui est antérieure à ces techniques-là. Alors, on va écouter ensemble une archive, on va écouter ce que disait Christian Bidner, qui était notre correspondant judiciaire à France Inter, qui disait tout haut ce que tout le monde pensait, à savoir que cette enquête avait très peu de chances d'aboutir malgré ces nouvelles techniques scientifiques.
Imaginons, puisque la science fait aujourd'hui des miracles, imaginons que sur ce demi-timbre, on décrypte effectivement le code génétique du corbeau. On ne sera pas à bout de nos peines, car l'auteur de cette lettre anonyme n'est pas forcément l'assassin. Peut-être n'est-il qu'un corbeau, et encore un corbeau parmi d'autres. Et puis surtout, connaître son code génétique, ça ne sera pas connaître son nom. Il faudrait pouvoir comparer. Et qui dit que les différents protagonistes de cette affaire accepteront de se soumettre aux tests comparatifs. Qui dit par exemple que Christine Villemain, la mère, un temps soupçonnée et même incarcérée, acceptera de se replonger dans l'horreur de cette affaire et d'être testée, même si c'est pour être définitivement libérée de tous les soupçons. Et ira-t-on, comme pour Yves Montand, jusqu'à rouvrir le cercueil de Bernard Laroche, le cousin, abattu par le père du petit Grégory qu'il tenait pour l'assassin, ira-t-on rouvrir son cercueil afin d'effectuer le prélèvement qui permettrait de comparer son ADN avec celui du timbre, donc affirmer qu'il était bien le corbeau, donc peut-être l'assassin. Peut-être, seulement peut-être.
Bon, mais il avait bien vu Christian Bidner.
Oui, ça, il avait bien vu. Non, ces expertises ADN, on a beaucoup espéré.
Forcément.
Finalement, tout le monde a accepté de s'y soumettre, il faut le dire. Les parents de Grégory ont accepté de s'y soumettre. Il y a eu des expertises qui ont été faites sur des cordelettes, des expertises qui ont été faites sur des vêtements. Ça n'a rien donné. Absolument rien donné. Donc voilà, on en est toujours dans cette interrogation qui, je vous le dis, ça peut paraître bizarre, mais pour toute personne qui s'est intéressée très près à cette affaire, il y a quelque chose qui reste. Il y a quelque chose qui reste, comme un manque profond de ne pas savoir. Et ça explique beaucoup de choses, quoi.
Est-ce qu'on peut considérer que les preuves matérielles sont toutes perdues?
J'ai pas le détail exactement de tous les scellés, comme disent les experts de la chose judiciaire. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que si cette affaire avait eu lieu 20 ou 30 ans plus tard, compte tenu effectivement des progrès de la police scientifique, il est probable qu'on soit arrivé à la vérité beaucoup plus vite. Malheureusement, ça s'est passé 20 ans plus tôt.
Et ça veut dire que le recours à l'ADN n'est pas le miracle, qu'il faut y recourir finalement très peu de temps après les faits, quoi.
Il faut très peu de temps parce que vous imaginez les vêtements le corps de cet enfant a séjourné dans l'eau. Donc forcément, il y a beaucoup de choses qui se sont estompées, qui se sont perdues. Et puis il y a l'explication des progrès de la police scientifique, progrès qui n'existaient pas à l'époque. Puis il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a un certain nombre de pièces qui auraient pu être expertisées, mais compte tenu des erreurs qui ont été faites au tout début de l'enquête, ces pièces ont été annulées. Oui. Donc on n'a plus le droit de s'en saisir. Donc on ne peut pas faire des expertises à nouveau dessus. Tout ça fait que c'est toujours le mystère.
Non, bon, ça ne veut pas dire non plus, on ne peut pas affirmer, et tant mieux d'ailleurs, qu'on ne
saura
jamais.
Bien évidemment.
Ça peut arriver un jour, évidemment. Et quel est votre regard sur l'exploitation qu'a pu faire, par exemple, le cinéma de cette affaire? Alors, c'est toujours plus ou moins réussi, les adaptations cinématographiques.
Moi, j'avais vu le téléfilm, je l'avais trouvé très réussi. Je sais qu'il y a des fois, c'est raté, et des fois, c'est réussi. Là, j'avais trouvé que c'était assez réussi.
Bon, Mathieu, il nous reste 1 minute 30, presque assez confortable, 1 minute 30. On va parler un peu de votre émission, tiens, puisque c'est plus tout à fait une nouvelle émission, puisque nous sommes quand même au mois de novembre maintenant, ça fait un peu plus de 2 mois qu'elle dure. Donc, tous les vendredis à 19h20, ça s'appelle Secret d'Info. Pour ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion d'écouter, ou même ceux qui la connaissent, racontez-nous un peu cette émission, puis on parlera du sommaire de demain.
Oui, écoutez, on s'intéresse à des affaires parfois plus récentes, où on explique où en sont des affaires un peu anciennes, mais quand il y a eu des rebondissements, on essaye d'apporter des informations.
On est un peu cousins, quand même.
Voilà, on est un peu cousins. Alors nous, on est un peu plus dans le présent que vous, ouais. Mais c'est un peu la suite que l'on fait. Par exemple, là, demain, on va revenir sur une affaire un peu ancienne maintenant, qui est l'attentat de Karachi. Vous savez que 11 Français avaient trouvé la mort dans cet attentat qui a eu lieu au Pakistan en 2002. Et on va s'intéresser à un personnage particulier, c'est un intermédiaire saoudien, c'est un peu le fantôme de l'attentat de Karachi. On sait qu'aujourd'hui, il intéresse de très 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 près le juge Trévidic qui enquête. Et donc on va vous raconter pas mal de choses sur ce monsieur dont on n'a pratiquement jamais parlé. Et puis on se replongera, alors là on fera un peu du Fabrice Drouel si j'ose dire, puisqu'on va recevoir un invité.
Parviendrez-vous ?
Je ne sais pas Fabrice. On va recevoir le dernier des gangsters du grand banditisme marseillais qui viendra nous apporter un témoignage inédit.
Bon, alors vivement demain. Hein.
Voilà.
19h20. Merci beaucoup Mathieu Aron. À demain. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui l'affaire Grégory, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, vendredi, donc la fiction, ce sera au tour de Stéphane Hessel.